Alléluia. Amen. Père, ce matin, nous te faisons confiance pour que tu nous parles, Amen. Que tu dévoiles ton cœur, que tu dévoiles tes pensées. Amen. Nous sommes attentifs à ta parole. Amen. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à nous communiquer ce qui est sur le cœur du Père. Amen. Jésus nous a promis que tu nous conduiras dans toute la vérité. Amen. Nous sommes persuadés que tu le fais. Amen. Nous sommes persuadés qu'il y a des choses qui seront ancrées en nous aujourd'hui qui vont transformer notre existence. Et qui va nous rendre encore plus agréables à Dieu. Il nous permet de vivre une vie qui lui soit agréable. Dans le nom puissant de Jésus.
Amen.
Amen. Amen. Je vous invite à faire un grand sourire à la personne à côté de vous. Et à lui dire à quel point vous êtes heureuse de la voir à l'église. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Seda hason deshe. We thank you, Lord. We serve a mighty God. Our God is so good. Our God is so good. Our God is so good. Hallelujah. Say hallelujah. God is so good. N'en déplaise au diable. C'est comme ça. Immuable. Ses perfections sont illimitées. Ses voies sont extraordinaires. Et ces pensées à notre égard sont des pensées de bonheur et non de malheur. Nous te bénissons, Seigneur. Regardez avec moi dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. We praise the Lord. We praise the Lord. Samos tegehe. Nous sommes en train de nous positionner en sondant le cœur de Dieu. Nous sommes en train de nous positionner en tant qu'Église. Et pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement qui ne sont pas à Bauhaus, nous sommes en train de nous positionner en tant qu'Église avec un grand E. Amen. Nous sommes en train de nous positionner et dire, quant à moi et ma famille, je servirai l'Éternel. Que nous aurons les pensées de Dieu. Nous ferons des choix qui correspondent au cœur de Dieu. Shehalindese. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Dieu a donné le meilleur qu'il a. Est-ce que vous lui donnez le meilleur que vous avez? Lorsque nous contemplons les vérités fondamentales de l'Évangile, il en est question en ce moment, notre fidélité envers la vérité de l'Évangile, notre fidélité envers les doctrines de Christ, et la nécessité que ces choses soient fondamentalement ancrées en nous. Et qu'elles déterminent nos valeurs, qu'elles déterminent nos choix, qu'elles déterminent nos décisions, notre style de vie. De telle sorte que nous soyons réellement ce que Jésus a dit nous concernant la lumière du monde. Quand vous regardez votre visage dans le miroir, ne vous dites pas « mon nez est trop gros », dites « je suis la lumière du monde ». Et cette lumière peut briller même à travers un gros nez. Lorsque nous contemplons les vérités fondamentales de l'Évangile, ce qui en ressort, c'est un Dieu extraordinaire, qui dépasse l'imagination humaine. Tout ce que nous pourrons désirer n'est rien à côté de ce qu'il est. Je répète, tout ce que nous pourrons désirer, imaginer, concevoir, vouloir en Dieu n'est rien à côté de ce qu'il est. Nous voyons Dieu éternel. Nous voyons Dieu bienveillant. Tellement bienveillant qu'il décide de se sacrifier pour que des gens qui ne méritent rien puissent tout recevoir. Tellement extraordinaire que l'on a du mal à le percevoir, à le saisir. Et même lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, on a encore du mal à l'intégrer. Et c'est pour cela, lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, après avoir parlé du fait que nous avons été élus en Christ, il commence à prier pour eux. que par la révélation de l'Esprit de Dieu, il puisse saisir ces choses. Et nous avons besoin de prier pour nous-mêmes, pour que par la révélation de l'Esprit de Dieu, nous puissions saisir ces choses. Parce que ces choses sont étrangères à la façon dont l'être humain fonctionne depuis la chute. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons entendre une fois et dire « Waouh, c'est bon, c'est super, j'ai tout compris ». Nous passons nos vies à méditer les vérités fondamentales de l'Évangile et nous passons nos vies à les assimiler et nous passons nos vies à les laisser transformer notre manière d'être et de faire. Dans ce passage, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Philippe, cette église avec laquelle il a une excellente relation. Cette église qu'il a portée, qu'il a soutenue, cette église qui lui a été fidèle. Et on dit que c'est pour cela que cet épître philippien est tellement rempli de joie. Parce que c'est une lettre qui est écrite à nous, mais tout d'abord à des gens qui ont compris. Qui ont compris l'importance de l'Évangile. Et qui ont soutenu l'apôtre Paul dans ses labeurs. Et qui ont été ses partenaires dans l'Évangile. Il y a une joie qui sort de ces phrases qui est absolument merveilleuse. Merveilleuse. Et nous voyons à quel point cela laisse transparaître la joie qui est dans le cœur de Dieu lorsque son peuple est partenaire de l'Évangile. Mais même à ce peuple, il est obligé d'expliquer certaines choses. Dans Philippiens chapitre 2, il les exhorte à avoir de l'humilité. Et dans ce passage sur l'humilité, nous sort une des descriptions de Jésus les plus sublimes dans la parole de Dieu. Il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » En d'autres termes, soyez comme Jésus. Ayez la même attitude que lui. Faites comme lui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est en train d'expliquer ici que Jésus, soyez comme Jésus. Parce que Jésus, avant de venir sur la terre, était Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est fait tout petit, il s'est fait moins que rien. Et ce passage, en réalité, est une illustration de l'exemple d'humilité que nous devrions avoir en tant que chrétiens. Mais dans cette illustration de l'exemple d'humilité, il nous dit des choses merveilleuses sur Jésus. Parce que vous avez compris, le message n'est pas sur l'humilité. Mais sur les valeurs essentielles qui découlent des vérités fondamentales de l'Évangile. De quoi? Vous allez comprendre. Et il explique ici que Jésus était Dieu, mais il n'a pas considéré qu'il fallait absolument retenir ses privilèges. Il n'a pas estimé que c'était un trésor qu'il ne pouvait pas lâcher. Et qu'il s'est humilié. Il est descendu de sa gloire. Il est descendu, il a accepté de se faire inférieur à ce qu'il est réellement. Il nous dit qu'il a pris la forme d'un serviteur, il s'est dépouillé. Il est devenu semblable aux hommes et il est venu sur la terre comme un être humain. Ensuite, il continue à parler de cette humiliation, de cette manière dont Jésus a laissé de côté ses attributs, s'est sacrifié, s'est donné. Et il explique qu'il est allé même jusqu'à la croix. En d'autres termes, l'humiliation n'était pas uniquement la croix. Tout le fait même de devenir un être humain. Laissant de côté ses prérogatives. Et il a fait le choix de le faire, de naître comme un bébé, d'être soumis à des êtres humains. Dans toute son éducation, son enfance, il était soumis à ses parents humains. Et chaque jour de sa vie, il marchait dans cette soumission. Dieu soumis. Nous n'avons pas entendu dire qu'il était connu à Nazareth comme rebelle. Non, soumis, Dieu soumis à des parents humains. Jusqu'à l'âge où il a été révélé. Et ça a duré longtemps. Longtemps, un an, deux ans, trois, quatre, cinq, c'est jusqu'à 30 ans. Et en plus, il a accepté de travailler comme charpentier. Il n'avait pas de robe pourpre. Il a accepté de travailler comme charpentier. Il a accepté ce qu'il y avait de plus méprisable, de plus humble, sans gloire. Et vous savez comment sont les gens. On vient commander une table, après on trouve que oui, mais bon, finalement, je ne veux pas, je veux l'autre. Et tout ça, Jésus a enduré. Tout ça, Jésus a enduré. Parce qu'il avait un but. Et ça ne s'est pas arrêté là, même quand il a commencé son ministère, ça n'a pas arrêté les attaques, les accusations. Sans parler de ceux qui disaient qu'il agissait avec la puissance du diable. Ça, c'est vraiment l'insulte suprême. Il s'est humilié et il est allé jusqu'à la croix. Et la croix, c'était l'humiliation suprême. C'était les criminels les pires que l'on mettait sur la croix. Et tout cela, il a accepté. Dans la suite de ce passage, il parle de la manière dont Dieu l'a souverainement élevé. Éphésiens chapitre 5 nous dit au verset 1, écoutez simplement, devenez donc des imitateurs de Dieu, dites imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. C'est ce qu'il nous a expliqué dans ce passage en Colossiens, Jésus s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous, il n'était pas dans l'obligation de le faire. Il a choisi de descendre de sa gloire, de se dépouiller et de se livrer pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et nous sommes invités à imiter Jésus. L'apôtre Paul nous invite à imiter Jésus. Et à l'imiter lui-même. Quand nous voyons, je commençais au départ à parler de ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si extraordinaire. Et quand ces vérités sont ancrées à l'intérieur de nous et que nous voyons que Jésus s'est livré pour nous, il y a une valeur essentielle, un principe de vie qui automatiquement découle de cela et c'est lequel? C'est le sacrifice. Se donner. Jésus s'est donné pour nous. Il a donné tout pour nous. Et nous sommes, lorsque nous épousons cette vérité, cela nous amène automatiquement à nous dire, nous ne pouvons que nous donner à lui. Et faire ce qu'il a fait. Non pas aller à la croix, c'est déjà fait. Mais nous donner. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et il y a des éléments qui, pour nos vies chrétiennes, sont indispensables. Et nous pouvons, pendant des années, avancer, reculer, tant que certaines décisions ne sont pas prises. Et une de ces décisions que nous devons obligatoirement prendre, si nous voulons réellement vivre la vie pour laquelle nous sommes venus sur la terre, c'est le choix de nous donner. Non pas la prière que nous faisons lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, entre guillemets, nous donnons nos vies au Seigneur. En réalité, ce que nous faisons, c'est que nous acceptons son salut. Et par la suite, lorsqu'il nous demande nos vies, non, j'ai accepté le pardon des péchés, ça ne veut pas dire maintenant que tu dois gouverner ma vie. Non, mais on est chrétien, mais ce n'est pas une raison. Oui, mais on est sauvé, mais ce n'est pas une raison. En réalité, ce que Jésus a fait à la croix, ce que nous voyons ici, c'est nous acheter. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait rançon pour nous. Donc, en réalité, nous lui appartenons. Lorsqu'il nous demande de nous donner, il nous demande de choisir nous-mêmes de lui donner ce qui est déjà à lui. Et la première chose, lorsqu'on parle du don de soi, c'est l'aspect juridique de la chose. C'est que juridiquement, nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes pas des agents indépendants et libres qui choisissent en fonction de ce que Dieu nous demande, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Et c'est comme ça que la majorité des chrétiens vivent. Quand Dieu veut quelque chose, il va falloir qu'il fasse une demande écrite et motivée. En plusieurs exemplaires. Et sur plusieurs mois. Avant que l'on commence à peser la question. Et après, on va regarder, ça ne nous plaît pas, et on met sur le côté. Tu refais une demande, d'autres explications, s'il te plaît. Nous fonctionnons comme des agents indépendants. Oh, nous ne sommes pas des agents indépendants. En réalité, personne sur la terre n'est un agent indépendant. Si vous n'êtes pas sous la coupe de Dieu, vous êtes sous la coupe du diable. Personne sur la terre n'est un agent indépendant. Je suis toujours intéressée par les gens qui discutent avec vous et qui vous disent, moi, je fais comme je veux. Je dis, moi, si seulement tu faisais comme tu voulais. Non, tu ne fais vraiment pas comme tu veux. Oui, mais moi, je fais mes choix. Non! Nous sommes conditionnés par celui à qui nous obéissons. Et ce que Dieu veut, c'est un don de soi. Volontaire. Seigneur, je te donne tout. Et la première chose dans ce don de soi, c'est réellement la relation intime. Dieu veut que je vienne lui parler, je viens lui parler. Pas parce que j'ai envie ou je n'ai pas envie. Les chrétiens m'ont dit, Alain, est-ce que tu pries le matin? Oui, mais le matin, c'est un peu difficile. Ou est-ce que tu... J'ai un peu de mal à prier, mais on n'a pas de mal à prier, on n'a pas décidé de prier. Vous n'avez aucun mal à prier, c'est que vous n'avez pas décidé de prier. Lorsque vous avez décidé de le faire, vous ne consultez plus vos émotions, vous ne consultez plus vos sentiments. Si on vous dit que vous allez mourir demain, mais il faut prendre ces cachets, vous allez avoir du mal à les prendre? Vous allez attendre 2 jours pour voir si vous allez les sentir? Non, vous allez les prendre tout de suite. Vous dites, docteur, je ne pars pas d'ici, on prend les cachets maintenant. Comme ça, on est sûr, tu es témoin que j'ai pris les cachets. Nous n'avons pas de mal à prendre, nous n'avons pas à décider. Ça ne veut pas dire que lorsque nous décidons, tout va couler comme à l'église. Bon, pasteur, non, mais ça veut dire simplement que l'on se met en accord avec Dieu. Et dès lors où vous mettez en accord avec Dieu, vous êtes sur la bonne voie. Mais il y a une chose qui est essentielle lorsqu'on parle du don de soi. La première chose, c'est cette communion avec Dieu. La deuxième chose, c'est l'identification. Dites identification.
Identification.
Identification totale avec Jésus. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'appel d'Ézéchiel. Nous avons lu Ézéchiel la semaine dernière, n'est-ce pas? Qui se souvient que nous avons lu Ézéchiel la semaine dernière? Dans l'appel d'Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne quelque chose, il lui dit de le manger. Et sur ce parchemin est écrit des lamentations, des cris, enfin, la parole de Dieu. Et Dieu lui demande de le manger. Et il a mangé. Et quand il a mangé, il a été habité par la parole de Dieu. Il a fait cause commune avec Dieu. En réalité, Dieu nous appelle à faire cause commune avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont encore dans l'autre équipe. Dieu est ici, eux ils sont là. Et ils sont en train de voir, de dribbler, voir qui va gagner. Quand Dieu va faire comme ça, mon Seigneur, mais tu penses que, mais moi je pense que, mais Seigneur et André, jusqu'à ce que j'ai gagné, le Seigneur m'en parle plus. Nous ne sommes pas appelés à être en compétition avec Dieu, ni dans l'autre équipe. Nous sommes censés faire cause commune avec lui. Lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous et l'attitude qu'il avait, ce passage nous dit que nous devons avoir la même attitude que Jésus avait. Et cette attitude consistait à aller jusqu'au bout avec Dieu. Et nous sommes appelés à aller jusqu'au bout avec Dieu. Et là, et quand nous comprenons ce que Jésus a fait, ça devient une chose naturelle. L'identification totale avec Christ. Pensez, cette lettre aux Philippiens a été écrite pendant que l'apôtre Paul était en prison. Et l'apôtre Paul, quand il était en prison, a constaté qu'il y avait des gens qui annonçaient l'évangile. Comme lui. Lui, il a été mis en prison, pourquoi? Parce qu'il annonçait l'évangile. Eh bien, pendant qu'il était en prison, il y avait des MC, des David, des Philippe, des gens qui annonçaient aussi l'évangile. Et vous et moi, on aurait fait, waouh, c'est super, il y a d'autres personnes. Mais l'apôtre Paul a aussi compris une chose. Il a dit, mais ils annoncent l'évangile. Aha. Pour que mes chaînes soient encore plus dures pour moi. En fait, ils annonçaient l'évangile par dépit. Ils annonçaient l'évangile pour bien, pour faire en sorte que Paul ait vraiment mal d'être en prison. Vous imaginez ce dont l'être humain est capable. Prêcher la parole de Dieu avec des motifs impurs. Pour qu'il sente bien son emprisonnement. Et il en était conscient. Et vous et moi, bien sûr, nous aurions fait quoi? Seigneur, punis-les, que personne ne se convertisse. Comme ça, ils savent qui est vraiment loin de Dieu. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit, qu'importe, quelle que soit leur motivation, tant que Christ est prêché. C'est l'attitude que nous sommes censés avoir, cette identification totale avec Jésus. Celui qui a été sans péché et qui a été fait péché pour nous. Celui qui n'avait rien à perdre, mais qui est quand même venu pour nous. Et cette vie qu'il a achetée pour lui, est-ce que nous avons le droit de lui dire, « Ouais, mais bon, non, elle est à toi, certes, mais bon, c'est moi qui décide. » Quelque chose de fondamental doit changer à l'intérieur de nous. Et Paul avait saisi cela. Et il a dit, « Pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, m'est en gain. Je vis, je meurs, ça va. Je vis, c'est pour Jésus. Je meurs, c'est pour rencontrer Jésus. » Que demande le peuple? Quand nous avons ce genre d'attitude, qu'est-ce que votre génération peut vous faire qui va vous amener à renégocier l'évangile? Ils vont être désagréables avec vous, et alors? Ils ne vont pas vous fréquenter, et alors? Ils ne vont pas vous inviter à leur fête, et alors? Ils vont dire, oui, toi, tu n'es plus drôle, avant, c'était bien, mais maintenant, ce n'est plus le cas, et alors? L'amitié du monde est l'inimitié avec Dieu. Cette attitude qui consiste à être identifié avec Jésus. Donc, identifié avec Jésus, identifié avec la cause de Jésus. Ça veut dire que tout ce qui fait avancer l'œuvre de Jésus sur la terre a de la valeur à mes yeux. Et tout ce qui ne fait pas avancer l'œuvre de Jésus sur la terre n'a pas de valeur à mes yeux. Et si quelque chose ne participe pas à bâtir l'Église, à faire en sorte que Jésus soit connu, reconnu, béni, je ne vais pas y participer. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui a écrit un livre sur la juvénilisation de l'Église. Et il expliquait le fait qu'aux alentours des années 50-60, il y a des groupes de jeunes qui ont été créés pour faire en sorte que les jeunes trouvent l'évangile plus accessible. Donc, ils ont mis en place un style de prédication qui était un peu plus cool et plus branché et qui permettait aux jeunes de s'identifier facilement et donc de venir plus facilement à l'église. Mais progressivement, ces jeunes ont grandi, mais leur style n'a pas changé. Et un aspect de ce style, ce sont les courts messages très visuel et très à haut impact énergétique et à faible contenu théologique. Et tout est centré sur l'atmosphère et l'émotion et juste des petits éléments qui vont les encourager, mais sans pour autant trop les mettre au défi. Et des églises entières ont adopté ce style au fur et à mesure que ces jeunes ont grandi, mais leur style n'a pas changé. Et c'est devenu presque un style dominant au sein de l'église. Ce qui nous amène dans une situation où on n'entend plus dire que nous devons être prêts à faire des sacrifices. On entend simplement dire, Jésus est ton ami. Et il est cool. Et dire en père, super. Et si tu viens à lui, tu vas voir, ta vie sera cool. Il y a plein de musique. Et on saute et on danse pendant une heure et après on a 15 minutes de voilà, tu vois que Dieu est cool, il est bon et c'est super. Et on n'est pas ringard. Et le résultat, c'est qu'il y a un appauvrissement.
spirituelle. Et l'église est devenue juvénile au point où lorsque vous parlez à quelqu'un du fait qu'il faut s'identifier avec Jésus, oui, mais tu sais que Dieu, il est cool, hein, il bénit. Oui, il bénit. Qui sait que Dieu bénit? Qui a été béni par Dieu? Mais la maturité spirituelle commence, là où nous commençons à dire, non pas Seigneur, que vas-tu faire pour moi? Mais Seigneur, que puis-je être pour toi? Qu'est-ce que je peux être pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Je suis toujours frappée par l'appel des gens que Dieu a appelés dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau. Lorsque Dieu est allé chercher, Jésus est allé chercher Paul. C'est frappant ce que Jésus a dit à Paul. Jésus n'a pas dit, cool, Paul, je suis cool. Tu viens, on va avoir de la bonne musique et tous les samedis soirs, ça va faire la fête. Et en plus, on va jouer au volley, on va faire des trucs mais super avec des copains et on va avoir un verset et ça va être super. Et certains ont dit, mais pasteur, vraiment, vous êtes vieille, on ne parle plus comme ça. Je sais que tu le pensais, je sais que tu le pensais. Tu peux te repentir devant l'église tout de suite. Jésus a dit à Paul. Non, Jésus a dit à Ananias, quand il lui a dit d'aller prier pour Paul, le Seigneur dans la révélation qu'il lui a donnée, qu'il lui a montré. Regardez ce que. Ça, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est une conversion radicale. N'est-ce pas? Et nous voulons des conversions radicales à Bahamas.
Amen.
Nous voulons des gens qui vont se donner à Jésus.
Amen.
Se donner. Parce que nous reconnaissons la valeur de Dieu qui s'est fait homme pour nous.
Amen.
Qui vont se donner, tout donner totalement. Non pas tester les œufs et voir. Est-ce que leur musique est bien? Est-ce qu'ils ont une chorale qui est super? Est-ce que vous faites des fêtes le week-end? Parce que. La révélation du Fils de Dieu, la compréhension de la divinité du Christ, de cette chose extraordinaire qui fait Dieu est devenu un être humain, mais franchement. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ça, mais il y a des païens qui l'ont compris, c'est pour ça qu'ils ne sont pas convertis. Parce qu'ils disent, oh, ça va trop me demander. Fou, si je viens, wow, mais c'est, ce que c'est trop fort. Si j'accepte ça, non, ça, ma vie doit changer. Identification. Donc, Jésus n'a pas dit tout ça à Paul. Jésus a dit à Paul. Il a dit à Ananias ce qu'il a dit à Paul. Il a dit, je lui ai dit tout ce qu'il va souffrir pour moi. Quelle manière de convertir quelqu'un? Quelle manière de convertir quelqu'un? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais nos conversions chocolatées, sont telles que lorsque les gens disent « Ok, j'accepte Jésus » parce qu'ils s'attendent à ce que demain, tous leurs problèmes soient réglés. Alors demain, s'il vous plaît, parce que je dors. Ils m'ont dit que, hein, et si demain, un mois, deux mois, oui, mais si Dieu, ouais. Identification, dites identification. L'identification totale avec Jésus, avec la cause de Christ. Identification, sensibilité. Ce que ça amène quand on se donne à Dieu, on devient sensible au cœur de Dieu. On devient sensible aux besoins de Dieu. Est-ce que Dieu a des besoins? Oui. Pas des besoins de par sa personne, mais des besoins de par ses désirs. Dieu a des besoins. Il veut que notre génération le connaisse. Jésus est venu parce que Dieu avait comme besoin, pas un besoin qui est inhérent à sa personne, mais dans le sens de ce qu'il désirait, que les gens soient réconciliés avec lui. Et quand on se donne entièrement, on devient partenaire de Dieu. Et on lui donne accès à notre vie, tout en sachant qu'elle lui appartenait. Et nous sommes souvent comme les enfants. L'autre jour, on m'a raconté une histoire d'Andrew. Andrew qui va dire à sa mère, « Maman, tu veux que je sois gentille avec toi? Tu veux que je te tienne la main? Oui, alors tu vas m'acheter un toupie.
Oh. »
Je dis, il ne comprend absolument pas le rapport de force dans cette relation, n'est-ce pas? Et nous, les chrétiens, nous sommes comme ça. Nous ne comprenons pas absolument pas le rapport de force. Seigneur, tu veux que je sois gentil avec toi? Tu veux que j'aille à l'église le dimanche? Tu veux que je donne ma dîme? Alors, fais ça pour moi. Je dis, ouh, j'ai déjà fait cette prière. Ouh, j'ai déjà fait cette prière. Seigneur, tu veux vraiment que je sois fidèle? Tu veux que je fasse la louange? Tu veux que je m'engage pour te servir? Alors fais ça, et fais ça, et fais ça, et fais ça au nom de Jésus. Le don de soi, ça veut dire inconditionnel. Jésus s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous. Nous pouvons nous donner à lui de façon inconditionnelle. C'est tout à notre honneur parce que nous lui appartenons déjà. Quand on s'identifie avec Jésus, on s'identifie avec sa mission, on s'identifie avec l'Église, avec un grand E, et on s'identifie avec l'Église, avec un petit E. On s'identifie avec tout ce qui fait avancer la mission de Jésus sur la terre. Ça devient mon affaire. Je commence à voir avec ses yeux. Je commence à désirer l'avancement de son royaume. Je commence à comprendre que je suis ici pour que son règne avance sur la terre. Et je commence à prendre fait et cause pour lui. Et je quitte l'équipe d'en face. Et j'intègre son équipe. Et là, c'est ce que tu veux, Seigneur. Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et quand je m'identifie à Jésus, mes choix de vie deviennent pour moi des choix qui doivent être guidés par Dieu et Dieu seul. Et dans toutes circonstances, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Ce n'est pas, oui, mais je veux ça, il faut que tu me le donnes, il faut que, non. C'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu le veux? Ok, tu ne le veux pas? On n'en parle plus. Nous sommes comme les enfants. Les enfants, maman, je veux un nouveau gâteau. Mais je t'en ai donné un hier. Oui, mais je veux un autre aujourd'hui. Mais je t'en ai déjà donné un. Mais je veux un gâteau! Et quand ils arrivent à la maison, mon neveu était comme ça. Il est devenu très cool, un gentleman maintenant. Mais il était comme ça. Et après, il se jetait par terre. Il se roulait par terre. Le pire, c'est qu'il ne faisait pas ça qu'à la maison. Il a déjà fait ça au Carrefour. Je fais comme si je ne le connaissais pas. C'est ma soeur qui s'en occupait. Je ne connais pas. C'est qui cet enfant? Non, je veux, je veux. Non, 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 je prends, je veux. Wow. Jesus. This kid needs to be saved. Le problème, c'est que nous sommes sauvés, nous continuons à nous comporter comme ça avec Dieu. Parfois, vous voyez, des gens ils n'ont pas été à l'église depuis des mois. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, vraiment, en ce moment, ça ne va pas. Et alors, qu'est-ce que ça change? Oui, mais bon, écoute, j'ai pas le temps pour l'instant de venir à l'église parce que j'ai des soucis, j'ai des... Et c'est... Tu me donnes, je ne veux plus dans ta église, tu ne me donnes pas, je ne veux plus, hein? God is good. Yes. Demandez à votre voisin, est-ce que tout est donné? Est-ce que tout est donné? Se donner veut dire laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut. Laissez Dieu faire avec nous ce qu'il veut. Sans poser des conditions. Il était une fois, je posais des conditions à Dieu par rapport à ce qu'il voulait faire de ma vie. Je dis, ok, Seigneur, quand tu vas faire ça, je vais pouvoir te servir. Figurez-vous qu'il n'a fait aucune de ces choses. Aucune. Il n'a fait aucune de ces choses. C'est curieux parce que Dieu pense que c'est lui le patron. Aucune de ces choses. Et je bénis Dieu parce que je suis en train de le servir. Donc, j'ai dû acquérir un peu d'intelligence sur le chemin.
Et beaucoup de gens passent à côté de leur destinée parce qu'ils sont en train de poser des conditions au lieu de se donner. On se donne. On se donne. On se donne. On se donne de façon inconditionnelle et pour la vie. De toute façon, vous allez où? Quand vous avez vraiment les yeux ouverts, vous savez que vous n'avez pas le choix. Quelle est l'alternative? Le monde? Vous n'avez rien compris. C'est ce que Pierre et compagnie ont compris lorsqu'il y a certains, quand Jésus leur a dit des choses, ils n'étaient pas contents. Ils sont partis. Ah, c'est quoi ça? Ses parents s'entretuent. On s'en va. Viens, Jean, on s'en va. Philippe, viens, on s'en va. C'est quoi ça? C'est Jésus qui parlait. Et toute une foule est partie. Parce qu'ils n'ont pas apprécié ses paroles. Donc, Jeannette a appelé Philippe. Philippe a appelé Jeannette. Et ils se sont appelés, ramasser leurs enfants. On s'en va. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et Jésus a demandé à ses disciples si eux aussi voulaient partir. Et ils ont dit, ah, mais Seigneur, où irions-nous? Où irions-nous? Tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Et lorsque nous comprenons qui est Jésus, nous comprenons que lui donner nos vies, ce n'est pas quelque chose qui nous fait ça. Oui, mais je le fais, je ne le fais pas. Non, c'est que s'il n'y a rien de plus intelligent que de tout lui donner. De plus intelligent. Vous voulez vous soumettre à qui? À Satan? Il n'est pas gentil. Je vous assure. Il n'est pas gentil. Mais nous avons besoin que nos yeux soient ouverts. Qu'est-ce qui nous amène à nous consacrer, à accepter de vivre une vie de sacrifice? Quand on parle de sacrifice d'ailleurs, parce que c'est ça la troisième chose. La première chose, c'est la communion avec Dieu. La deuxième chose, c'est l'identification totale avec Jésus, avec sa mission sur la terre. La troisième chose, c'est le sacrifice. Pourquoi? Parce que ce que Dieu va nous demander de faire ne va pas nécessairement être ce que nous voulons faire. Il y a des gens qui pensent que oui, mais Dieu, si Dieu va jamais te demander de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, c'est faux. C'est faux. Dieu va souvent vous demander de faire des choses que vous ne voulez pas faire. C'est absolument faux. À quoi que vous connaissez Dieu, vous savez tout. Pourquoi vous avez besoin d'être sauvé si vous avez toute la pensée de Christ dès le départ? Non. Il est vrai qu'il y a des choses que Dieu a mis en nous, que nous sommes déjà en train de manifester, et il va s'en servir, mais il y a des choses qu'il a mis en nous que nous ne connaissons même pas. Vous pensez que je suis née en train de prêcher? Non. Non. Moi, je regardais les gens qui prêchaient. Better you than me. Ça, jamais. Pasteur, ou jamais. Ah, mais alors, jamais. Oh, grand, jamais. Parce que nous sommes des rebelles. Nous sortions du milieu d'un peuple rebelle. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Il faut que cette rébellion disparaisse. Alléluia. Et Dieu s'emploie à la faire disparaître. Mais c'est important pour nous de Seigneur, je me soumets. Je fais comme Ézéchiel. Et Dieu a dit à Ézéchiel, toi ne sois pas rebelle. Et c'est important. Seigneur, moi je ne serai pas rebelle. Je sais qu'en ce moment, je pense des choses complètement différentes de toi, mais je veux être d'accord avec toi. Quand nous nous limitons à faire ce qui nous arrange, nous n'allons jamais, jamais, jamais arriver à notre destinée. Quand nous nous limitons à faire ce avec quoi nous nous sentons confortables, nous n'allons jamais arriver à notre destinée. Le sacrifice est partie inhérente du fait d'être à Dieu. Parce que Dieu a des choses sur son cœur que vous ne soupçonnez même pas, que vous ne pensez même pas. Et Dieu va vous demander. Dites à votre voisin, Dieu va te demander. Et il nous a dit que Jésus s'est offert comme offrande et comme sacrifice. Et le premier sens du sacrifice, c'est justement cela, une offrande que l'on présente à Dieu. Et sous l'Ancienne Alliance, ils présentaient des offrandes, des animaux qui ensuite étaient brûlés, qui étaient tués et ensuite brûlés, parce qu'il fallait faire couler leur sang, la vie de l'être est dans le sang. Et il fallait que cette mort soit la punition des péchés. Et ces animaux étaient des substituts. Donc la personne qui vient présenter son animal reconnaît qu'elle est pécheresse et qu'elle méritait la mort, mais elle présente cet animal qui sera sacrifié, qui va mourir, dont le sang sera versé et qui se substitue en quelque sorte à elle. Mais il fallait présenter à chaque fois. Et ce qui s'est passé qui est merveilleux, c'est que quand Jésus est venu, lui a été présenté comme offrande. Et il est mort à la croix et son sang à lui a été versé. Et Hébreu nous explique une fois pour toutes. Alléluia, c'est pour ça que vous n'entendez pas les boucs et les béliers dehors. Jésus, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et c'est ça le sens premier du sacrifice. Mais comme nous voyons dans ce passage ce qu'il nous a dit concernant Jésus, il nous a dit qu'il s'est dépouillé. En d'autres termes, Jésus s'est donné.
Jésus a laissé de côté ce à quoi il avait droit. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas du fait de ne pas pécher. J'espère que vous savez que vous n'êtes pas censé pécher. Alléluia. Que nous sommes censés vivre une vie sainte. On peut plus loin. Nous sommes déjà d'accord que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas continuer dans les mêmes péchés qu'avant. Mais il y a plus que ça. Dites plus que ça. Et le plus que ça, dans le don de soi, c'est accepter de renoncer à ce à quoi nous avons droit. Je répète. C'est accepter de renoncer à quelque chose auquel nous avons droit, qui n'est pas nécessairement un péché, mais qui peut être un obstacle pour nous dans ce que Dieu veut que nous fassions. Et parfois, le sacrifice, c'est tout simplement que Dieu nous amène à faire un autre choix de vie que ce que nous avions pensé. Ça ne veut pas nécessairement dire devenir pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, mais Dieu peut vous orienter différemment que ce que vous aviez pensé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a fait. Et c'est lui qui sait ce qu'il a mis en vous. Et quand il vous a fait avec un but précis. Et vous avez été formaté dans le monde et parfois par vos parents pour aller dans un sens qui peut ne pas être le sens dans lequel Dieu, lui, veut vous amener. Eh oui, tout à fait. Papa et maman sont gentils, mais parfois ils n'entendent pas Dieu. Et nous orientent sur un chemin qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu veut pour nos vies. Et il y a un choix de vie à faire. Un choix de vie. Et parfois, c'est tout simplement que ces choses sont en dehors de notre vision personnelle. Ou que ce sont des choses qui ne correspondent pas à nos préférences naturelles. Ou parfois, ce sont des choses qui correspondent à nos préférences naturelles et qui vont nous dire, bon, ça, stop. Et je n'aurais pas le droit de vous parler de sacrifice si je n'ai pas passé par là, si je ne suis pas passé par là. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de devoir renoncer à quelque chose auquel on tient absolument. Absolument. Ou de prendre un chemin différent que celui auquel nous, on avait pensé. Mais qu'est-ce qui nous amène à pouvoir tout donner à Dieu et accepter de faire des sacrifices? La première chose, c'est ce que je vous ai déjà dit, le fait de comprendre que juridiquement, nous sommes à Dieu. Et je parlais hier de l'apôtre Paul qui s'est constitué en esclave de Jésus-Christ. Vous allez lire dans les épîtres, il va dire à Paul, doulos de Jésus-Christ. Doulos veut dire esclave. Non pas parce que nous sommes esclaves sous la nouvelle alliance, nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Nous sommes devenus ses amis. Mais Paul a décidé, lui, je me constitue en esclave, en d'autres termes, je me mets entièrement à ta disposition comme un esclave est à la disposition du maître. Tu dis, je fais. Tu envoies, j'obéis. Tu déclares, je déclare. Tu rejettes, je rejette. Je veux vivre en symbiose avec toi, dans l'obéissance la plus totale. Et ça, c'est une valeur essentielle qui découle de la compréhension de la nature de Jésus. Et la manière dont Jésus a fonctionné vis-à-vis de nous. Si lui qui est Dieu n'a pas considéré qu'il ne voulait pas renoncer à ses privilèges, qui sommes-nous pour dire que nous ne voulons pas renoncer à nos choix? Si Jésus n'avait pas renoncé à ses privilèges et renoncé à sa gloire céleste, nous serions perdus pour toujours. Alors qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui est aussi important que la gloire de Jésus? Si lui a pu renoncer à sa gloire, quelle est cette chose merveilleuse à laquelle nous ne pouvons pas renoncer? La compréhension du fait que nous sommes à lui, l'admiration, la parole de Dieu nous appelle à être des imitateurs de Christ. Jésus a fait comme ça, moi aussi je fais comme ça. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage en Colossiens, c'est qu'il nous explique qu'il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur, un esclave. Il a paru comme un homme, il est allé même jusqu'à la croix. Et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Et le résultat de sa soumission, de son obéissance, c'est qu'il a été élevé et que tout ce qui existe lui est maintenant soumis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Il n'y aura pas vraiment de gloire dans nos vies tant que nous ne nous donnons pas totalement à Dieu. totalement à Dieu. Et qu'est-ce qui nous amène à faire des sacrifices, à accepter de renoncer à des choses ou d'accepter des choses qui sont différentes de ce que nous pensions avant? Cette compréhension que nous appartenons à Jésus et la confiance que nous avons en Dieu. La confiance que nous avons en Dieu. La confiance que nous avons, sachant que Dieu sait ce qu'il fait. S'il le dit, c'est parce que c'est bon. C'est parce que c'est bon. Et parfois, on ne voit pas. Parfois, notre expérience quotidienne est différente. C'est parce que c'est bon. Et parfois, ce n'est même pas logique, voyez-vous. Logique. Mais Dieu a une logique qui dépasse l'entendement humain. Logique. Pendant des années, je lui demandais où était la logique. Où était la logique? Où était la logique? Qu'est-ce que je fais en France? Où est la logique? Je finis mes études, je m'en vais. Où est la logique? En Angleterre, je peux prêcher dans ma langue. En anglais, je suis à l'aise. Où est la logique d'insister pour que je reste ici? Ce n'est pas logique. Tu voulais que je sois là, tu aurais pu me faire naître francophone. Ce n'est pas logique. Ou même naître à Paris. Il n'y a pas de logique. Surtout qu'à l'époque, dès que vous étiez évangélique, vous êtes des sectes. Si vous pensez que c'est Dieu maintenant, ça a beaucoup changé. On est en réveil maintenant, par rapport à avant. Par rapport à avant, les chrétiens vous disent, oh, des sectes. Vous étiez tout de suite infectes. Et moi qui viens d'une tradition anglophone où les gens comprennent qu'ils sont les évangélistes, tout le monde, Neno, you born again, yeah. Tout le monde sait ce que c'est. C'est normal. Et pour moi, c'était, mais Seigneur, j'aime ma langue française, mais laisse-moi. Je vais chasser tous les démons des îles britanniques, je te le promets. Tu me laisses partir. Je l'ai dit, je vous assure que je l'ai dit. Donc, c'est quand vous dites des bêtises, non, rassurez-vous, vous n'êtes pas les premiers. Et c'est, mais Dieu a une logique qui nous dépasse. Et c'est important, si nous ne décidons pas de lui donner nos vies, nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté. Mais totalement à côté. Pensez que vous avez du mal à vous consacrer? La confiance que nous avons en Dieu, que Dieu sait pourquoi et il sait ce qu'il fait, c'est essentiel. Quand j'avais 20 ans, j'ai toujours écrit. Depuis que j'étais jeune, j'écrivais. J'aime écrire. J'ai fait l'autre jour, quand on était en train de ranger dans ma maison, j'ai sorti beaucoup de mes poèmes, des choses que j'écrivais. J'ai eu même à présenter mes poèmes publiquement. Et j'étais partie dans ce sens-là. Et j'allais être écrivain. Et j'écrivais beaucoup et j'aimais écrire. J'aime la langue. Et j'aime même ce que j'écris. Même quand je lis, waouh, c'est bon. Et j'étais partie, il y avait un prix littéraire que je visais. À 25 ans, au plus tard, j'aurais tel prix littéraire. Et évidemment, quand vous voulez avoir un prix littéraire dans le monde, vous n'allez pas parler de Jésus. Donc, j'avais deux vies. Cette vie, oui, j'aime le Seigneur. Et cette autre vie littéraire où il n'est pas question de parler de Dieu, parce qu'il fallait que j'y arrive. Et Dieu a dit, je la veux, cette vie. Et je dis, non. Tu sais que je t'aime. Je suis respectueuse de la loi. Je ne pêche pas. Je suis dans la sainteté. Mais ça, c'est mon truc. Je ne te demande pas de me laisser épouser Jacques, même si tu n'aimes pas. Non, on est d'accord. Mais ça, c'est mon truc. Ce n'est pas un péché. Laisse. Et pendant un temps, je pensais que ça allait. Et Dieu venait encore. Donne. Non, sois gentil. Sois gentil. C'est une des choses les plus dures que j'ai faites de ma vie. Une des choses les plus dures que j'ai faites de ma vie. Vous comprenez, le pire, ce n'est pas quand vous n'êtes pas... Parfois, on pense que, bon, quand on n'est pas doué, c'est dur. Le pire, c'est quand vous êtes vraiment doué. Et que toutes sortes de chemins s'ouvrent devant vous. Vous allez là. Et non, je veux que tu ailles là. Non. Je vais aller là. Parce que là, je vais réussir, je vais être glorifié. Wow. Et quand je serai glorifié, tout sera glorifié. Tu comprends, Seigneur? Parce que quand mes prix littéraires, quand je vais arriver ici, et j'avais décidé à quel âge j'aurai le Nobel de la littérature. Non, je suis très ambitieuse. J'expliquais à Dieu, vous savez, il y a des fois, on a l'impression que Dieu ne comprend pas. Je lui ai expliqué, écoute, quand je serai glorifié, tout sera glorifié. Quand je serai célèbre, je dirai que c'est grâce à toi. Mais il n'est pas question de parler de toi dans mes livres. Parce que si je parle de toi, je ne vais pas avoir beaucoup de ventes et je ne serai pas riche. Et en plus de ça, je ne vais pas gagner mes prix littéraires. Et comment tu vas être glorifié ensuite? Il y a des choses auxquelles Dieu nous demande de nous renoncer toujours, pour toujours. Il y a des choses auxquelles il nous demande de renoncer pour un temps. Parce qu'il veut prendre tout ce que nous avons, c'est lui qui a mis en nous. Et il sait pourquoi il les a mis en nous, n'est-ce pas? Et parfois, lorsque nous découvrons que nous les avons, nous décidons ce que nous voulons faire avec. Il dit, non, ce n'est pas ça que je veux faire avec. Ce n'est pas pour ça que je l'ai mis en toi. Je vais faire quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Non, mais ça, c'est bien. Oh, Seigneur, regarde. Non, regarde. Et c'est vraiment important pour nous de comprendre la confiance que nous avons en Dieu nous amène à pouvoir tout lui donner. Tout lui donner. Dans l'assurance que rien de ce que nous avons n'est notre possession. Tout ce que nous avons vient de lui. N'oubliez jamais, tout ce que vous avez vient de lui. Quand vous commencez à lutter, que vous ne voulez pas lâcher, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de mal? Laisse! Et Dieu dit, donne, laisse! Vous vous souvenez de Linus et son manteau? Il ne lâche pas son manteau. Nous avons des choses comme ça dans nos vies. Dites sacrifice. Nous pouvons faire des sacrifices aussi parce que nous avons la révélation de la vérité. Lorsque nous sommes consumés par la réalité de l'évangile, rien d'autre n'est plus important dans nos vies que de consacrer nos vies à faire en sorte que les gens soient réconciliés avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à Ésaïe. Vous vous souvenez d'Ésaïe? Ésaïe, quand il a eu la révélation de la grandeur de Dieu, s'est invité dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a dit, qui est-ce que nous allons envoyer? Moi! Et parfois, Dieu nous appelle et on fait la sourde oreille. Flo, quelqu'un t'appelle. Et ça peut durer des années parfois. Et on n'est jamais à l'aise, on n'est jamais bien. Il y a une période de ma vie pendant une année. Mais une année entière, c'était une année de tourment. Cette année était l'année où j'étais la plus malheureuse de ma vie. J'étais plus malheureuse cette année que l'année où mon père est décédé. J'étais malheureuse parce que je fuyais Dieu. Vous comprenez? Bon, c'était déjà une chose de renoncer à la gloire littéraire. Il n'a pas lâché l'affaire, il est revenu encore pour autre chose. Cette fois-ci, c'était toute ta vie. Non, non. Je ne fais rien de mauvais, tout va bien, je sers, qu'est-ce que tu veux encore? Une année entière. Une année entière. Dites à ton voisin, sois plus intelligent que ça. Une année entière. Et devinez qui a gagné. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas de regrets. On n'a pas de regrets. Notre problème, c'est que nous sommes aveugles et que nous ne voyons pas ce que Dieu voit. D'où l'importance de se donner. Parce que quand on accepte de se donner et de faire le sacrifice que Dieu veut, de renoncer à ce que Dieu veut, d'accepter ce que Dieu veut, on découvre de l'autre côté qu'on a fait le bon choix. Parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on a la révélation, parce qu'on a un sens de responsabilité, parce qu'on a la sagesse de reconnaître que les choses de la terre sont provisoires. Et que tout vient et tout passe. Nous venons, nous passerons. Nous passerons. Dieu m'a fait la grâce de me montrer des choses dans l'esprit qui m'ont permis de saisir que, décidément, la vie sur terre est vraiment passagère. Elle est passagère. Et nous devons l'employer de telle sorte à ce que Jésus soit glorifié. C'est important cela, il faut vraiment le garder à l'esprit. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons vraiment accepter les sacrifices que Dieu demande? La reconnaissance, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Où serions-nous sans Jésus? C'est la vie qu'il a rachetée. Il la veut qu'il la prenne.
Je vous ai expliqué une période où Dieu travaillait.
Il y a des gens ici qui sont vraiment bien. Tu dis, Seigneur, ce que tu veux tout de suite. Nous, on était durs. C'est pour ça que j'ai un peu de compassion pour les gens qui sont durs. N'est-ce pas? J'ai un peu de compassion parce que je sais ce que c'est que de se débattre avec Dieu. Et aimer Dieu, le suivre, ça, pas de souci. Passer du temps dans la... pas de souci. Mais renoncer à certaines choses pour aller là où Dieu veut. Quand, je disais hier aux gens qui étaient là, quand vous voyez le feu sur un autel, c'est parce qu'il y a un sacrifice sur l'autel. Il y a quelque chose. Je pourrais vous raconter histoire sur histoire sur histoire, vous serez étonnés. Mais notre vie, pour qu'elle soit utile à Dieu, doit être une vie qui lui est entièrement donnée. Vous savez, les anciens, ils comprenaient ce fait de se donner à Dieu et se donner pour les désirs de Dieu, se donner pour ce que Dieu voulait. Certains n'avaient pas la révélation que nous avons eue par la grâce de Dieu sur la guérison, sur la protection, sur le fait que Dieu pourvoit nos besoins et ainsi de suite. Mais ils avaient quelque chose de très important, le don de soi. Et nous sommes passés dans l'autre extrême. Eux, c'était, nous, dans tout, à Dieu, on n'a besoin de rien, on peut mourir, on peut, qu'importe, on peut mourir malade, qu'importe. Et nous sommes passés de l'autre côté, on veut tout, donne-nous, occupe-toi de nous, on est bien, il faut qu'on soit heureux, qu'on soit tranquille, que ça pépère, que tout le monde voit que ah, Dieu nous bénit. Et on ne veut rien donner à Dieu. Il y a un homme qui s'appelait Adoniram Judson, dont l'histoire est vraiment frappante. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a grandi à l'église et qui après a été à l'université. Comme beaucoup de vous, vous êtes à l'université. À l'université, ses parents pensaient qu'il était destiné au ministère. Lui-même disait qu'il était destiné au ministère. Sauf que quand il est arrivé à l'université, il avait un ami qui l'a convaincu de renoncer à Jésus. Et il est devenu déiste. Et les déistes, les gens qui croient qu'il y a un Dieu quelque part, mais bon, sans plus quoi. Il y a une divinité, enfin. Il ne croyait plus, il y a une force, quelque chose. Il ne croyait plus en Jésus. Il a renoncé à sa foi. Et ses parents ne le savaient pas. Et finalement, ils ont fini par le savoir. Quand il a fini son cursus universitaire, au lieu d'entrer dans le ministère, de se préparer pour le ministère, il a décidé de partir à New York et de devenir écrivain. Il a commencé à mener une vie un peu dissolue. Et un jour, il s'est retrouvé dans une... C'est que vous comprenez la grâce de Dieu sur nos vies. Il s'est retrouvé dans un hôtel. D'abord, il est allé voir quelqu'un. Il a rencontré là-bas un jeune homme qui, lui, était très ferme dans sa foi. Ça l'a un peu étonné. Parce que, hein. Et ensuite, le lendemain, il s'est retrouvé dans un hôtel. Et il avait du mal à dormir la nuit parce que dans l'autre pièce, il y avait quelqu'un qui était en train de mourir. Et cette personne mourait, mais dans une agonie terrible. Dans une agonie terrible. Et lui, ça l'a un peu amené à réfléchir sur sa vie, sur sa mort, sur l'éternité. Finalement, cette personne est décédée. Le lendemain, il a découvert que c'était son ami, celui qui l'avait sorti de la foi. Et lui, il s'est dit, c'est pas vrai. Il est mort, il est allé en enfer. Et ça a été fondamental dans son choix de revenir au Seigneur. Quand il est revenu au Seigneur, ce qui m'a encore plus frappé dans son histoire, c'est le fait qu'il s'est consacré totalement. Il s'est donné totalement, totalement. Et il est parti en Inde comme missionnaire et finalement, il a atterri en Birmanie, le Myanmar. Il y a passé le reste de sa vie. 33 ans après, il est retourné une fois aux États-Unis, après il est retourné et il a passé le reste de sa vie. Et on estime qu'aujourd'hui, à cause de son œuvre, il y a des centaines de milliers de personnes converties. C'était le premier baptiste qui est allé en mission. Et il y a aujourd'hui des dizaines de milliers d'églises baptistes. Le résultat du sacrifice d'un homme, un seul homme. Nos vies peuvent compter dans le royaume de Dieu si nous décidons de tout lui donner. De tout lui donner. Tout. Et avant lui, il y avait beaucoup qui arrivaient et qui ne restaient pas.
qui repartaient. Et c'est ce que nous constatons beaucoup dans la vie des gens. Aujourd'hui, les chrétiens, dès que nous voulons, « Seigneur, on va tout faire, on va bâtir, on va faire. » Et dès que les problèmes commencent, les gens commencent à reculer. Et c'est tout simplement parce que le choix n'a pas été fait de tout donner à Dieu, de tout lui donner. Et quand on lui a tout donné, il y aura des moments où c'est difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grâce de Dieu qui vient sur nous pour porter, pour supporter les temps difficiles est vraiment extraordinaire. Elle est même démesurée. Elle est démesurée. Elle avale et elle englobe les difficultés, les malheurs. Elle les englobe et elle les triture et elle les réduit en miettes. N'oubliez jamais, pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. Il y a des choses auxquelles nous avons droit et que Dieu va nous demander, est-ce que tu me le donnes? Il est allé chercher Moïse. Vous comprenez, Moïse était le libérateur et il avait compris Moïse. Dieu l'a fait grandir dans la maison de Pharaon. Et au moment où Moïse est sorti pour libérer son peuple, il a eu des déboires. Il s'est retrouvé envoyé ailleurs. Où il est resté pendant 40 ans. Vous comprenez, Moïse était pendant 40 ans loin d'Égypte. Il avait déjà établi sa vie. Il était marié, établi. Tout était bien. Il s'était habitué à sa nouvelle existence. Et Dieu, semble-t-il, somnolait pendant 40 ans. C'est ce que nous en pensons. Et il a eu la bonne idée d'aller déranger Moïse, déranger sa quiétude, d'aller l'amener maintenant comme libérateur, maintenant que lui n'y pense plus. Évidemment, Moïse n'a pas compris. Et Moïse a tout de suite commencé à trouver des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas. Et Dieu a trouvé des raisons pour lesquelles il pouvait. Ce qui est merveilleux, parce que nous avons tellement l'habitude de cette histoire que nous ne prenons plus conscience du degré de sacrifice de Moïse. Parce qu'il pouvait très bien dire, mais tu étais où il y a 40 ans? J'étais prêt à libérer mon peuple. Et la logique humaine voulait que Dieu l'utilise à l'époque, parce qu'il était quand même prince. Il avait une certaine capacité d'action. Maintenant, Dieu le ramène au moment où il est quasiment oublié. Ah, c'était à le rigolo, là. Et Moïse a accepté de laisser sa vie pour aller amener tout ce peuple. Et quand vous donnez tout à Dieu, que vous arrivez à des moments où c'est difficile, c'est là où vous allez connaître les joies du don de soi. Parce que Moïse a quand même eu des moments difficiles avec ce peuple. Mais Dieu l'a préservé. Et il est resté comme le plus grand prophète d'Israël. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait décidé, ah non, je ne peux pas. Personne ne connaîtrait son nom aujourd'hui. Demandez à votre voisin, est-ce que tout est donné? Est-ce que tu veux te donner? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? L'apôtre Paul est mon héros. L'apôtre Paul est un homme qui avait compris l'importance de l'Évangile. Il avait compris aussi la vanité de l'existence humaine et de toutes les choses derrière lesquelles on court. Il avait décidé que tant qu'il vivait sur la terre, il vivrait pour la gloire du Fils de Dieu. Et que tout ce qui n'était pas à la gloire du Fils de Dieu n'avait pas de place dans sa vie. Et quel que soit ce que ça lui demandait, il allait vivre exclusivement pour la gloire du Fils de Dieu. Et Dieu est allé chercher un homme qui avait un certain standing dans la société et qui a dû renoncer à tout ça. Et ses anciens amis sont devenus ses ennemis. Et ses anciens amis ont commencé à chercher le moyen de le faire tuer, de le faire mourir. Mais c'est quand même intéressant parce que la fin de sa vie n'était pas aigrie ou amère. Et il en avait vu de toutes les couleurs dans son service pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y avait même des gens qui l'aimaient et qui après l'ont déserté. Il y avait des gens qui étaient avec lui, qui n'étaient plus avec lui. Il y avait des gens qui ont essayé de causer des problèmes pour lui parce qu'il était en prison. En prêchant Jésus, il faut le faire. Les chrétiens sont extraordinaires. Les moyens que l'on peut inventer pour faire du mal. Et il a été battu, il a vécu toutes sortes de choses. Mais à la fin de sa vie, il n'était pas aigri. Et quand il était face à une épine dans sa chair, il disait, en messager de Satan, en démon qui allait l'attaquer, causer des problèmes pour lui partout où il allait, il a dit, sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Et à la fin de sa vie, il n'était pas aigri. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté la course. Ah! Beaucoup de ceux qui n'avaient pas donné leur vie, qui ont préféré vivre leur vie, ne jamais répondre à l'appel de Dieu, ils n'avaient pas ce témoignage. Ils allaient un jour rencontrer le Seigneur et ils auraient eu honte. Mais Paul, lui, avait une entrée abondante dans le royaume de Dieu. Nous sommes des passagers sur la terre. Et on chantait ce chant de Jim Reeves quand on était petit, où il disait « This world is not my home. » I am just passing through. I'm just passing through. Il est temps que cela revienne dans notre mentalité à l'Église. Nous nous sommes un peu trop installés dans le monde. Nous sommes trop à l'aise. Et nous courons derrière les mêmes choses. Plus d'argent, plus de voitures, plus d'argent, plus de voitures, plus d'argent, plus d'argent. Ce qui fait partie des effets secondaires de l'Évangile est devenu l'objectif de l'Évangile dans notre génération. Et en faisant de ces choses l'objectif de l'Évangile, nous avons renoncé à ce qui est le cœur de l'Évangile, faire en sorte que le Fils de Dieu soit glorifié dans notre génération. C'est pour cela que nous sommes là. Il y a plus d'or au ciel que sur la terre. Si c'était pour acquérir de l'or, nous serons déjà au ciel. Et au ciel, ça n'aura pas de valeur parce que c'est du trottoir. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous cherchons le royaume de Dieu, premièrement, toutes ces choses nous seront ajoutées. Tout l'argent dont vous aurez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour vivre, vous sera ajouté. Nous allons prier. Glory to God. Je veux que ce soit un temps de consécration, un temps où l'on décide ce que tu veux, Seigneur. Et Dieu nous travaille tous de manière différente. Et Dieu fait des choses différentes dans la vie de chacun. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais vous comparer à quelqu'un d'autre. Jamais. Là, nous ne parlons pas de péché, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de péchés qui sont permis à certains, mais pas à d'autres. Mais la vie à laquelle nous sommes appelés n'est pas la même. Vous ne pouvez pas comparer Jérémie, par exemple, à Moïse. Et vous ne pouvez pas comparer Moïse à Paul. Et dans l'histoire récente aussi, vous ne pouvez pas comparer les individus. Dieu fait des choses différentes avec des personnes et demande des choses différentes à chaque personne. Mais le constat est unanime. Lorsque nous faisons ce que Dieu veut, nous vivons la vie que Dieu veut que nous vivions. Et la vie que Dieu veut que nous vivions est une vie merveilleuse. Merveilleuse, 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 merveilleuse. Merveilleuse, merveilleuse. Il y a des choses que nous allons voir au ciel, il y a des choses que nous voyons déjà sur la terre. Nous avons remercié le Seigneur pour tout ce qu'il fait à travers nous, à travers cette église, à travers ce ministère. Mais à chaque fois que je pense à cela, ça me met la crainte de Dieu. La crainte de Dieu parce que je vois des chemins d'obéissance et des chemins de sacrifice par lesquels il m'a fait passer des choses très spécifiques. Certains jours, je vous les dirai. Et je me rends compte qu'il s'en est fallu de peu Et que certaines de ces choses, si je n'avais pas accepté, vous ne serez pas devant moi aujourd'hui. Et je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Pensez à là où Dieu vous amène. Pensez à ce que Dieu veut faire, que vous ne voyez pas encore aujourd'hui. Et croyez-moi, accepter ce que Dieu veut, c'est réellement entrer dans ce pour lequel vous existez. Ce pour lequel vous avez été appelé à l'existence. Refuser ce que Dieu veut, c'est passer votre vie à côté de la raison de votre existence. Nous sommes formatés par nos mondes, par notre génération, pour voir les choses d'une certaine façon, pour avoir telle valeur, pour désirer telle chose. Et parfois, nous sommes même formatés par nos parents pour entrer dans le ministère, alors que Dieu nous a appelés à être des hommes d'affaires. Et vice-versa. Nous allons faire une réunion de femmes, et je vais partager des choses avec les femmes qui sont ici. Parce que beaucoup de femmes n'accomplissent pas leur destinée. Parce qu'elles ont des yeux ailleurs que là où Dieu veut les amener. Le sacrifice, ce n'est pas renoncer au péché, c'est renoncer à des choses qui sont légitimes, mais qui ne sont pas nécessairement compatibles avec là où Dieu nous amène. Je vais vous inviter à prier. Dieu a appelé cette église à l'existence pour avoir un peuple qui lui est entièrement acquis. Pour avoir un peuple qui se donne entièrement à Dieu. Et je pense que ce n'est pas un hasard si c'est cela l'histoire de ma vie, parce que je ne peux pas vous amener là où je n'ai pas été. Non seulement vous amener à comprendre que se donner à Dieu, ce n'est pas passer à côté, mais aussi vous amener à voir l'urgence de se mettre à la disposition de Dieu pour notre génération. Et que tout ce que nous poursuivons, un jour nous allons voir et cela n'aura aucune valeur à côté de ce que Dieu veut que nous poursuivions. Ce qui fait notre légitimité dans le royaume de Dieu, dans le service de Dieu, ce n'est pas le nombre de personnes qui nous approuvent et qui nous aiment. C'est notre vécu avec Dieu. C'est est-ce que Dieu nous possède entièrement? Pour ceux d'entre vous qui allez entrer dans le ministère à plein temps, je peux vous assurer de ceci. Si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Si vous êtes entièrement à lui, il vous portera, il vous soutiendra et il vous défendra. Et ce, quel que soit l'endroit où Dieu oriente votre vie par ailleurs, je vais vous inviter à prier ce matin si vous voulez réellement tout donner au Seigneur. Dis, Seigneur, je te donne ma vie. Prions. Je veux ce que tu veux. Je veux vouloir ce que tu veux. Je veux aimer ce que tu aimes. Seigneur, agis en moi. Je reconnais que de par la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi, je devrais être disposée à tout pour toi. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me permettes de voir ces choses, de les saisir, illumine les yeux de mon cœur, pour que tout mon être soit enflammé, pour que la compréhension s'établisse en moi, et que je veuille tout te donner et accepter ce que tu me demanderas. Et je sais que le chemin sur lequel tu me mènes, c'est le chemin de la joie, c'est le chemin de la paix, c'est le chemin de l'harmonie la plus totale avec Dieu. Et je ne veux pas passer ma vie à lutter contre toi, à être dans l'équipe d'en face. Je veux être dans ton équipe. Je veux voir la valeur de ce que tu me donnes pour ma vie. Je veux cesser de désirer ce qui n'est pas de toi pour moi. Tu me donnes, Seigneur, de façon inconditionnelle. Tu n'es pas tenu de faire quoi que ce soit, simplement faire de ma vie ce que tu veux. Je veux réussir mon existence. Je veux que la vie que je mène sur la terre soit conforme à ce qui est sur ton cœur. Me voici, Seigneur, je me donne à toi. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Et je veux pouvoir, comme Paul, dire à la fin de ma vie, ça y est, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et maintenant, m'est réservée une couronne de gloire. Je ne veux pas avoir honte lorsque je vais voir Jésus. Je veux tout te donner, Seigneur. Oh, Jesus. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous sommes toujours émerveillés par toi. Que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Nous te remercions pour ton sacrifice. Nous te remercions pour ton exemple. Nous te remercions parce que nous ne pouvons jamais nous tromper en t'imitant. Merci pour ton sacrifice. Merci de t'être dépouillé. Merci d'être descendu de ta gloire céleste. Ah, merci de nous avoir montré à quel point le don de soi est couronné de gloire. Seigneur, merci. Nous voulons être façonnés et refaçonnés encore à l'image du Fils de Dieu. Nous voulons être de ceux sur lesquels tu peux compter, Père, dans notre génération. Father, thank you. Bâtis dans chaque homme et chaque femme dans cette église la conscience de la grandeur de Dieu. La conscience de la grandeur de la vie qui est vécue selon le cœur du Père. Fais de nous une solution pour notre génération. Des hommes et des femmes puissants. Parce qu'il n'y aura plus de mélange en nous, mais une consécration pleine et entière. Un engagement plein et entier. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Father. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. Nous avons besoin de tout lui donner pour découvrir réellement la joie d'appartenir à Amen. Dieu. Nous sommes constamment surpris par les choses que Dieu fait.
Amen.
God is so good. Mais nous devons arrêter ce culte. Je pourrais continuer encore pendant des heures. Alléluia. We love you, Jesus. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur que nous l'aimons ce matin? Dites-lui que vous l'aimez ce matin. Oh, we love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Father. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, thank you, Lord, because the future is bright. The future is bright. Very bright. Very bright. Very bright. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Père, nous te remercions. Nous te remercions. À la fin de chaque culte à Abba House, nous sommes toujours bénis. Nous ne pouvons jamais dire, oh, Seigneur, tu étais où? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tu es toujours présent. Tu parles, tu diriges, tu encourages, tu nous transformes, tu nous interpelles, tu nous reprends, tu nous partages ton amour. Wow. Est-ce que vous êtes d'accord?
Amen.
Père, merci. Est-ce que nous pouvons dire merci? Ça va
merci.
Merci, papa. Merci, merci, papa. Merci pour ta sollicitude. Merci pour ta douceur. Merci pour ta bienveillance. Merci même pour ta correction. Merci pour ton interpellation. Merci pour ton invitation à la sainteté, à la droiture, à la consécration. Et Père, en tant qu'Église, nous répondons oui.
Oui, Seigneur.
Nous répondons
oui, Seigneur.
Nous répondons
oui, Seigneur.
Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dites à votre voisin, voisin,
oui.
Va dans cette force que tu as.
Va dans cette force que tu as.
Bénis ta génération.
Bénis ta génération.
Annonce l'Évangile.
Annonce l'Évangile.
Guéris les malades.
Guéris les malades.
N'oublie jamais.
Tu appartiens à Dieu.
Alors donne-lui tout.
Alors, donne-lui tout.
Et amène les gens qui t'entourent.
Amen.
à tout lui donner.
À tout lui donner.
Dieu t'aime.
Et moi aussi.
Amen. Thank you, Lord.